Alors, vous voulez peut-être le suivre. Ésaïe 55, verset 7. Ésaïe 55, verset 7. Que le méchant abandonne sa voie et l'homme d'iniquité ses pensées. Qu'il retourne à l'Éternel, qui aura pitié de lui, à notre Dieu, qui ne se lasse pas de pardonner.
Un petit peu plus nombreux ce soir que hier soir. Si je ne me trompe. Hier soir, nous avons parlé de la grâce, parce que nous avons pensé que ce thème était plus approprié pour nous qui sommes habitués avec le texte biblique. Et nous avons vu que comment la grâce agit dans la vie du croyant. Et à partir du texte biblique, nous avons vu que le texte biblique se termine d'ailleurs par le besoin de grâce. Apocalypse. Quel chapitre ? Dernier verset de la Bible. C'est quoi le dernier verset de la Bible ? Et nous avons vu que ce n'est pas pour rien que ce n'est pas pour rien que le texte biblique se termine par cette notion de grâce. Il y a donc des sujets comme ça qui sont essentiels pour le peuple de Dieu des derniers temps. Ça y est, tu vois, je vais arriver. Relever du religieux. C'est bon ? Ou parler du pardon, relever du religieux. Mais depuis quelque temps, tout le monde ressent le besoin de pardonner ou d'être pardonné. Il faut pardonner telle nation pour les massacres commis. Il faut pardonner tel autre pour les dommages du temps, de la colonisation, de l'esclavage, etc. Ce qu'il faut savoir, c'est que le manque de pardon et les secrets que nous gardons dans nos cœurs luttent contre notre épanouissement personnel. C'est pourquoi ceux qui refusent de pardonner risquent de connaître des problèmes d'estime de soi, tant qu'ils refuseront de pardonner. Ceux qui étudient les faits de société affirment le nombre croissant de faillites conjugales et qu'une grande partie des traumatismes familiaux sont dus au manque de pardon, parce que lorsque nous ne pardonnons pas, disent-ils, nous devenons ce que nous fuyons. Le problème est que bien souvent, nous parlons beaucoup de pardon dans nos milieux, mais nous ne savons pas toujours comment cela fonctionne. Comment faire pour que le pardon devienne une véritable puissance de guérison? Nous dirons premièrement que le pardon est une décision. Ce n'est pas quelque chose qui va se faire automatiquement. Il faut premièrement prendre la décision de pardonner. Après avoir décidé, il se peut qu'on ait besoin d'un peu de temps pour pardonner. Mais il faut quand même commencer par prendre la décision de pardonner. Pardonner les fautes commises par les autres sont parfois les fautes, c'est comme quand on est dans un désert. Ça nous stresse, ça nous assèche. Mais avec le temps, le pardon nous apprend à reconstruire nos vies en laissant tomber la douleur et la peine qu'avait laissée la sécheresse du passé. Dans la société, dans nos familles, dans l'Église et dans la vie, nous ne pouvons pas nous payer le luxe de dire « Je ne pardonne pas, je ne parle plus à quelqu'un puisqu'il m'a fait du tort. » On ne peut pas se payer ce luxe-là. Il est vrai que pour des raisons ou d'autres, légales ou pour notre paix psychologique, nous devons parfois prendre des distances avec certaines personnes. Mais aussitôt que possible, le plus vite possible, nous devons leur pardonner. Nous faisons du mal à notre conjoint lorsque nous ne lui pardonnons pas. Nous faisons du mal, beaucoup de mal à nos enfants lorsque nous ne leur pardonnons pas. Ça y est, attends. Merci. Alors je vais essayer d'arriver à la diapo parce que je n'ai pas. Voilà. Donc, nous faisons beaucoup de mal à nos conjoints lorsque nous ne pardonnons pas. Beaucoup de mal à nos enfants. En ne pardonnant pas, nous faisons beaucoup plus de mal que nous ne faisons à ceux à qui nous ne pardonnons pas. Alors, un psychologue américain disait que le pardon est un des plus grands dons que Dieu ait donné à l'homme. Mais nous pouvons aussi citer le Christ qui conditionne le pardon de Dieu au pardon que nous accordons aux autres. Puisque dans son évangile, Matthieu nous dit, dans Matthieu 6, versets 14 et 15, le texte vous l'avez à l'écran, « Si vous pardonnez aux hommes, qu'est-ce qui va se passer? Votre Père céleste vous pardonnera aussi. Mais si vous ne pardonnez pas aux hommes, qu'est-ce qui se passera? Votre Père ne vous pardonnera pas non plus vos offenses. » Il s'agit d'une invitation à pardonner avant de demander au Père de nous pardonner. Non pas que le Père ne nous pardonne pas, puisque son pardon nous est offert d'emblée, mais parce que nous ne pouvons pas jouir pleinement du pardon qu'il nous accorde si nous refusons de pardonner aux autres les torts qu'ils nous ont faits. Quand nous refusons de pardonner, nous bloquons les effets du pardon que Dieu nous accorde et nous ne pouvons pas jouir des bénédictions qui en découlent. Et ceci nous aide à comprendre que le pardon est plus pour nous qu'il n'est pour l'autre personne qui a besoin d'être pardonnée. Laissez-moi vous indiquer les principales étapes à franchir pour pardonner d'une manière qui nous libère et qui libère les autres. Quand on a compris que pardonner, c'est d'abord pour soi, il faut premièrement se pardonner. Pour pouvoir pardonner les torts aux autres, il faut se pardonner premièrement, c'est-à-dire apprendre à nous aimer, parce que nous projetons toujours sur les autres ce que nous sommes. Toujours ce que nous sommes. Il est plus facile pour celui qui s'aime, qui a une bonne image de soi, de pardonner aux autres le mal qu'ils lui ont fait, parce qu'il sait que sa valeur ne dépend absolument pas de l'attitude ou du comportement des autres. On peut dire du mal de moi. Ça n'enlève rien à la valeur que le Seigneur me donne. Absolument pas. Quand on a une mauvaise image de soi et qu'on ne s'aime pas, on peut avoir facilement le sentiment d'être atteint dans son intégrité. On peut ressentir plus facilement le sentiment de persécution. On peut plus facilement mal interpréter le regard et les propos des autres. Quand, vous savez, quand quelqu'un pense qu'il a un nez de travers, le nez de travers, dès qu'on le regarde, on dira « Ah, on regarde mon nez. » S'il pense que les oreilles sont trop grandes, on le regarde « C'est mes oreilles qui regardent. » Vous voyez ? Donc, on est conditionné par ce que nous n'aimons pas chez nous. Les gens qui n'ont pas l'estime de soi ont tendance à offenser les autres beaucoup plus que ceux qui ont une bonne estime de soi. Il est donc important de commencer par s'aimer soi-même. Il faut, deuxièmement, vouloir pardonner. Quand on veut de quelque chose, on fait tout pour l'avoir. On utilise tous les moyens possibles pour avoir cette chose. Et quand un homme veut une femme, rien n'est trop difficile. Il peut faire des kilomètres, même s'il pleut, pour aller la voir. J'ai connu ça quand j'étais jeune. Le temps de moi. Vous aussi? Oui, quand on veut de quelque chose, on se donne les moyens de l'avoir. Il y en a qui, d'ailleurs, qui s'endettent énormément pour avoir quelque chose qu'ils veulent vraiment avoir. Et d'où cet adage qui dit que vouloir, c'est pouvoir. Il en est de même du pardon. Il est possible de pardonner si on le veut. Il faut, troisièmement, décider de pardonner. Décider, c'est s'engager à lutter contre tout ce qui pourrait empêcher d'obtenir ce que l'on veut. Et j'aimerais citer deux choses essentielles contre lesquelles il nous faut absolument lutter. La première, c'est l'orgueil. Je regarde parce que je n'ai pas la vue ici. En effet, une mauvaise compréhension du pardon consiste à croire que pardonner est un acte de faiblesse. Mais c'est le contraire. Il faut être fort pour pardonner, car il faut du courage pour faire ce que les autres n'arrivent pas ou ont du mal à faire. Je me souviens quand j'étais enfant et que j'avais fait quelque chose de mal à mon frère ou à une de mes sœurs, parce que j'en ai deux, ma mère me disait, va demander pardon à ton frère ou à ta sœur. Oh, je n'aimais pas ça. Je n'aimais pas ça. J'avais l'impression que c'était une humiliation. Peut-être que certains d'entre vous ont connu ça aussi. Par contre, lorsque l'un d'eux m'avait fait quelque chose et que ma mère leur disait d'aller me demander pardon, alors là, oui, j'étais fier, j'attendais que l'on vienne. Vous n'avez pas connu ça? Oui? Oh oui, nous sommes sur la même planète. Ouais. Mahatma Gandhi disait que le faible ne peut pas pardonner. Le pardon appartient au fort. La deuxième chose contre laquelle il faut absolument lutter, ce sont les préjugés. Les préjugés conduisent à croire systématiquement que l'autre m'en veut, que l'autre a quelque chose contre moi, alors que bien souvent, l'autre est lui-même victime de ses préjugés. Il faut, quatrièmement, offrir le pardon. Et selon, d'ailleurs, ce que je viens de dire tout à l'heure dans ma relation avec mes frères et sœurs, selon cette conception que le pardon est une sorte d'humiliation, que nous pensons que, compte tenu de cette éducation que nous avons reçue, nous pensons que c'est toujours le coupable, celui qui a fait du tort, qui doit être le premier à faire le premier pas. C'est lui qui doit venir demander pardon. C'est vrai, hein? Et que lorsqu'il y a une différence entre deux personnes, on attend que celui qui a tort vienne demander pardon. Et cette conception rend difficile l'exercice du pardon. Difficile parce que qui a tort? En général, quand il y a un différent de deux personnes, chacun dit avoir raison. Et même lorsqu'on reconnaît qu'on n'aurait pas dû faire ou parler ou dire ou agir de telle manière, on arrive à justifier les raisons pour lesquelles on l'a fait. Il arrive ainsi qu'on ait envie d'aller s'excuser auprès de quelqu'un qu'on a offensé et lui demander de nous pardonner, mais on n'y va pas parce qu'on ne sait pas comment la personne en question va nous recevoir. D'ailleurs, quand on est différent de deux personnes, si indifférent entre Jean et moi, et que j'ai envie, ou je vais prendre le contraire, Jean veut venir, il sent que, en fait, il voudrait bien venir vers moi pour s'excuser, demander pardon. Mais il sent de la manière dont je le regarde et que je fuis, il n'a pas intérêt à venir parce que ça va chauffer. Tu vois, c'est pas vrai. Ben bien sûr. Ben bien sûr. L'attitude de l'autre fait qu'on n'y va pas. Parce qu'on sent que si on va, bon, il y aura des explications, il y aura des règlements de compte et on n'a pas envie. Et alors, on n'y va pas. Le pardon doit être donc le pardon doit être offert. Et c'est la démarche la plus délicate. Vous comprenez pourquoi, quand je vous dirai que le pardon est en réalité un don du non-coupable au coupable, je répète que le pardon est un don du non-coupable au coupable. C'est le non-coupable ou celui ou celle qui se dit non-coupable qui doit offrir le pardon. Je sais que cette conception n'est pas, difficile. Elle n'est pas habituelle dans le milieu, alors que nous parlons beaucoup de pardon. Et c'est une des raisons, comme je le disais au début, parce que nous ne savons pas comment ça fonctionne, qui fait que nous vivons avec des contentieux, que ce soit au niveau de la famille, de la société ou de l'Église. Offrir le pardon, c'est se mettre dans les conditions psychologiques pour obtenir la réconciliation. La Bible reste le livre de référence en ce qui concerne le pardon. Et aux Colossiens, l'apôtre Paul déclare, dans Colossiens 3, verset 13. Colossiens 3, verset 13, quelqu'un veut-il lire le texte ? Nous ne pouvons pas plaire à tout le monde. Nous pouvons ne pas apprécier le comportement de l'un ou l'autre, de même que d'autres peuvent aussi apprécier ou ne pas apprécier notre comportement. Alors, dit l'apôtre, si l'un a sujet de se plaindre de l'autre, qu'est-ce qu'il faut faire ? Pardonnez-vous. Pardonnez-vous comment ? Merci. Et j'aime bien le mot « réciproquement » qui implique que le pardon ne se fait pas dans un seul sens, mais doit être réciproque. Le Christ, quant à lui, déclare dans Matthieu 5, versets 23 et 24, « Si donc tu présentes ton offrande à l'autel et que tu te souviennes que ton frère a quelque chose contre toi, qu'est-ce qu'il faut faire ? Laisse là ton offrande, va d'abord te réconcilier avec ton frère, puis viens présenter ton offrande. » L'offrande, c'est la prière. Prière du soir. Et on pourrait dire, si tu viens prier et que tu te souviennes que ton frère a quelque chose contre toi, ce n'est pas la peine de continuer. Laisse tomber ça. Va d'abord te réconcilier avec ton frère. Puis viens, et alors ça passe. C'est dur, hein ? C'est dur, hein ? C'est lui qui a quelque chose contre moi, mais c'est moi qui dois aller. Qu'en est-il alors si c'est vous qui avez quelque chose contre quelqu'un ? Alors, j'aime bien le texte biblique ne laisse pas non plus, ne laisse pas dans l'impasse. Dans Marc 11, versets 25 et 26. Lorsque vous êtes debout, faisant votre prière, si vous avez quelque chose contre quelqu'un, qu'est-ce qu'il faut faire ? Pardonnez-lui pourquoi ? Afin que votre Père qui est dans les cieux vous pardonne aussi vos offenses. Si c'est vous qui avez quelque chose contre quelqu'un, pardonnez. Et notons que dans un cas comme dans l'autre, c'est-à-dire que ce soit l'autre qui a quelque chose contre vous ou vous qui avez quelque chose contre l'autre, eh bien, il faut pardonner. Ceci nous amène à la troisième, à la cinquième étape, à franchir pour pardonner d'une manière qui nous libère et qui libère les autres. Après s'être pardonné, après vouloir pardonner, après avoir décidé de pardonner et vouloir offrir le pardon, il faut le faire dans un bon esprit. Avant d'aller trouver l'autre, il vous faut veiller à l'esprit dans lequel vous allez offrir la réconciliation. Vous serez d'abord exigeant avec vous-même, sans essayer de vous blanchir ni d'expliquer pourquoi les choses en sont arrivées là. Et si vous avez tort, reconnaissez-le. Si vous pensez que c'est l'autre qui a tort, ne cherchez pas à lui faire comprendre qu'il est fautif. Qu'il accepte ou non, sa culpabilité n'est pas le but. Le but est de rétablir la relation. C'est le conseil d'ailleurs que donne l'apôtre Paul aux Éphésiens quand il dit dans Éphésiens chapitre 4, verset 32, « Soyez bons les uns envers les autres, compatissants, vous pardonnant réciproquement comme Dieu vous a pardonné en Christ. » Vous n'avez peut-être pas fait attention, mais dans le premier texte que nous avons lu, l'apôtre nous invitait aussi, dans sa lettre aux Colossiens, à nous pardonner réciproquement de même que Christ nous a pardonné. Et ici, nous sommes toujours exhortés à pardonner, non pas comme nous voulons, comme nous décidons, comme nous pensons qu'il faut pardonner, mais comme Dieu nous a pardonné. Et pour l'apôtre, la façon dont Dieu nous a pardonné est la seule référence. Alors, quand on étudie le pardon, j'ai voulu en savoir plus sur la façon dont Dieu nous a pardonné et j'aimerais partager avec vous ce que j'ai découvert en commençant par dresser la situation avec le prophète Ésaïe. Ésaïe, chapitre 59, verset 2, texte que nous connaissons. Il a dit quoi ? Merci. Le péché nous a séparés de Dieu. Le texte dit que le péché met une séparation entre nous et Dieu, et même qu'il empêche Dieu de nous écouter. À votre avis, qu'est-ce qu'il faut pour que la réconciliation se fasse avec Dieu ? Qu'est-ce qu'il faut pour que la réconciliation se fasse ? Hein ? Eh bien, il faut enlever la cause de la séparation. Faire disparaître la barrière, c'est-à-dire le péché, et dès que la cause de la séparation est enlevée, la relation se rétablit. La Bible, j'aimerais illustrer ça d'une manière... Jean, tu viens avec moi, toi aussi. Je crois que c'est important pour nous comprendre ça. Alors, Jean, oui, tu es un cobaye. Il n'y a pas un jeune là, il n'y a que des adultes. Mais venez avec moi. Venez avec moi. Une jeune, j'ai pris une jeune. Une jeune vieille. Une jeune vieille. Donc, il y a entre Jean et vous, comme ça, une bonne relation. Et puis, il se trouve quelque chose, le péché rentre. Ce n'est pas le péché, mais bon. Qu'est-ce qui se passe ? Qu'est-ce qui se passe ? La relation entre vous deux est rompue. Vous ne vous voyez pas, ça ne s'est plus. Qu'est-ce qu'il faut pour que la relation se rétablisse ? Il faut enlever le péché. Et la relation est de nouveau rétablie. Je fais ça pour nous aider à comprendre ce que Dieu a fait et comment il nous a pardonné. Merci. Merci. Bien, la Bible confirme que c'est en effet ce que Jésus a fait. Galates, chapitre 4, versets 4 et 5. Quelqu'un veut-il lire ? Le texte à l'écran, je crois, non ? Ah bon. Galates, chapitre 4, versets 4 et 5. Au sacrifice de Jésus, l'innocent, nous pécheurs, sommes devenus enfants de Dieu, cohéritiers de Christ, la barrière qui nous séparait de lui a été enlevée. Et nous pouvons entretenir avec Dieu une relation comme un enfant avec son père. Le texte nous dit dans Hébreux chapitre 9, verset 26, qu'il a paru pour... Pourquoi ? Abolir le péché. Par son sacrifice, Jésus a aboli le péché qui nous séparait de Dieu. Et l'apôtre Paul dit dans Romains 8, verset 3, que Dieu a condamné le péché dans la chair en envoyant son Fils. Au lieu de nous condamner, nous, pécheurs, Dieu a condamné le péché. Et l'a fait reposer sur son Fils qui, lui, était innocent. Eh bien, nous disons que le salut est gratuit, et c'est vrai que nous sommes sauvés par grâce. Mais Dieu a payé très cher pour que nous soyons sauvés de la pénalité du péché. Il a payé très cher puisqu'il a livré son Fils pour qu'il meure pour nous. L'apôtre Pierre nous dit que Jésus, le Fils de Dieu, a porté nos péchés en son corps sur la croix. C'est dans 1 Pierre chapitre 2, verset 24. C'est ce qu'il y a à l'écran, je crois. 1 Pierre 2, 24. Dans, l'apôtre Paul lui dit qu'après avoir porté nos péchés en son corps, eh bien, qu'est-ce qui s'est passé ? Il l'a détruit à la croix. Ainsi, grâce au sacrifice de Jésus, l'innocent, nous les pécheurs, avons été réconciliés avec Dieu. Disons plutôt dans Colossiens 1, 21 et 22. Comme nous l'avons dit, que le pardon est un don du non-coupable au coupable. Il est offert au coupable, l'homme en l'occurrence, qui est responsable de la rupture par le non-coupable Dieu. Et rappelez-vous que c'est la seule méthode pour pardonner que nous trouvons dans la Bible. Et nous sommes appelés, rappelons-le encore, à pardonner non pas comme nous voulons, mais comme Christ nous a pardonné ou comme Dieu nous a pardonné. Donc le pardon est vraiment un don offert par le non-coupable au coupable. Et là, je le sais, des situations où certains auront du mal à accepter de pardonner. Je pense à ceux qui sont victimes d'abus, oui, de ruptures aussi sentimentales ou affectives. Je pense à ceux qui sont victimes d'un divorce, de violences conjugales ou familiales. Je pense à ceux qui ont été exploités de différentes manières, etc. Mais ce sont surtout ceux et celles qui ont été victimes de ces différentes situations qui ont besoin de pardonner, car ce sont surtout eux qui ont besoin de retrouver leur estime de soi que seul le pardon peut leur apporter. J'aimerais raconter une histoire qui nous permettra de comprendre. Un jour, dans une église, un frère vient me dire, « Pasteur, ma femme, je ne sais pas ce qui se passe, mais ça ne va pas du tout. À la maison, je ne la reconnais plus. Je ne la reconnais plus, même avec notre fille, ça devient insupportable. » Et puis, je demande à cet homme, à ce frère, est-ce qu'elle a un problème avec quelqu'un d'autre ? Et ce frère me dit qu'elle a un problème avec sa mère et qu'elle lui en veut à en mourir. Et j'ai compris tout de suite quel était le problème. J'ai dit à ce frère, écoute, je vais rencontrer un tel, donc sa femme, qui est un membre d'église. Et en effet, j'ai rencontré la femme dans le bureau et elle m'a confirmé qu'en effet, elle en voulait terriblement à sa mère. Et elle m'a expliqué les raisons pour lesquelles elle en voulait à sa mère. Et quand elle m'a dit tout ce que sa mère lui avait fait, elle m'a dit, « Pasteur, vous pensez que je peux pardonner à cette femme ce qu'elle m'a fait ?» Et je lui ai dit, « Oui, il faut que tu le fasses, parce que c'est pour toi que tu vas le faire. » Elle m'a dit, « Non, ce n'est pas possible. Pas possible. » Entre-temps, le temps a passé, on s'est rencontrés une deuxième fois sur le même thème pour exprimer le besoin de pardon. Et la maman a été hospitalisée. Malheureusement, elle est morte. Sans que la femme, la sœur, ait eu l'occasion de demander pardon à sa mère. Et suite au décès de sa mère, elle, cette sœur, a aussi été hospitalisée parce que ça n'allait pas du tout dans sa vie personnelle. Je suis allé la voir à l'hôpital et je lui ai dit que, oui, mais tu vois, le problème, si tu veux être guéri vraiment, il faut que tu pardonnes à ta mère, mais elle n'est plus là maintenant. Mais on se verra. Et nous nous sommes retrouvés à sa sortie de l'hôpital, dans le bureau. Et là encore, il y avait deux chaises. J'étais assis ici, elle était assise en face de moi, et je lui expliquais les raisons pour lesquelles elle devait absolument pardonner à sa mère. À un moment donné, elle a demandé la permission, elle m'a exprimé le désir par permission, mais d'aller aux toilettes. Et quand elle s'est levée pour aller aux toilettes, j'ai pris une troisième chaise, et j'ai mis la chaise. Et quand elle est revenue, elle s'est assise sur sa chaise. Et je lui ai dit, ta mère, elle est sur la chaise là. Dis-lui tout ce que tu voulais lui dire. Dis-lui tout ce que tu lui reproches. Et après un moment d'hésitation, cette soeur a commencé à parler à la chaise comme elle parlait à sa maman. Elle lui a dit des choses que j'étais inimaginables pour moi, enfant, avec une maman, inimaginables. Jusqu'à ce qu'elle avait été brûlée par un fer à repasser, par avoir désobéi à sa maman. Mais des choses terribles. Elle a parlé à la chaise, elle a critiqué, la maman, elle lui a dit. Et puis enfin, après, elle a dit, mais je te pardonne. Et elle a commencé à pleurer. Deux semaines après, le mari vient me voir et me dit, « Pasteur, je ne sais pas ce qui s'est passé, mais un tel, sa femme, a complètement changé. Complètement changé. » Et elle, cette sœur, vient me voir et me dit, « Pasteur, je ne savais pas que le pardon, c'était pour moi. C'était pour moi. » Et je me rends compte que je reproduisais sur ma fille ce que j'avais vécu avec ma mère. Voilà. Pour nous épanouir, pour retrouver du goût à la vie, pour retrouver une bonne estime de soi, nous devons apprendre à pardonner, à nous débarrasser des secrets qui ruinent notre être et risquent de nous donner des problèmes psychiques. J'aimerais, dans nos milieux, quand nous parlons du pardon, nous parlons souvent du pardon des autres. Je pardonne à Jean qui m'a fait quelque chose. Je pardonne à Esther qui m'a fait quelque chose. Je pardonne au pasteur qui m'a fait quelque chose. C'est un mauvais langage. La Bible ne comprend pas ça. Dans la Bible, il n'y a pas de pardon de l'homme. Ça n'existe pas. Il y a le pardon des péchés. Alors, lisez les textes sur le pardon. Pardonne-moi, pardonne-nous nos offenses. Jamais pardonne-moi. Il n'y a pas ça dans la Bible. Pourquoi ? Parce que, tout simplement, Dieu n'a pas Israël commet des fautes, mais la demande, c'est pardonne ton peuple les péchés qu'ils ont commis. Jamais le peuple. David a commis une faute, couché avec Bathsheba. Mais il dit, pardonne-moi le péché que j'ai commis, pas moi. Dieu n'a jamais de problème avec vous et avec moi. Mais il a un problème avec le péché qui nous sépare de lui. Et lisez dans la Bible tous les textes que vous voulez sur le pardon. Et vous ne trouverez jamais un texte disant « Pardonne-moi ». Non. Pardonne-moi les fautes que j'ignore. Pardonne-moi le péché que j'ai commis. Toujours le péché. Parce que le problème, c'est le péché. Et c'est bien souvent le péché qui met une division entre frères et sœurs, entre mari et femme, entre conjoints, entre parents et enfants. Il y a quelque chose. Alors, nous en voulons à la personne qui, bien souvent, est une victime. Parce que nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, c'est-à-dire contre des hommes comme nous. Mais peut-être qu'à un moment donné, telle personne a été utilisée par le diable. Et nous lui en voulons alors qu'elle est elle-même une victime. Je ne sais pas si vous vous rendez compte de ce que nous venons de dire. Mais lorsque j'ai découvert que Dieu n'a jamais de problème avec moi, eh bien, c'était comme si je me noyais et qu'on m'avait envoyé une bouée de sauvetage. Dieu n'a jamais de problème avec moi. Ce que Dieu veut, c'est enlever le péché qui fait obstacle à la relation qu'il veut avoir avec moi. Ça ne vous réjouit pas de savoir que Dieu n'a pas de problème avec vous? Ça ne vous fait pas du bien de savoir ça? Oui? 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 Mais oui, Dieu n'a pas de problème avec vous. Mais lorsque le péché vient vous séparer de lui, alors oui, il a un problème, pas avec vous, avec le péché qui l'empêche d'avoir la relation qu'il voudrait avoir avec vous. Le péché est criminel. Le péché a conduit un innocent à la croix. Et à la croix, je découvre l'horreur du péché. Et le souhait que je formule ce soir pour vous, c'est que nous puissions tout faire pour éviter que d'une manière ou d'une autre, le péché mette un obstacle dans la relation que Dieu veut avoir avec nous.
De Jésus. Chantons-le avec le cœur et la reconnaissance. Attaché à la croix.
Quel sauveur merveilleux je possède, il s'est sacrifié pour moi, et sa vie innocente il cède pour mourir sur la femme bois. Il renonce à la gloire céleste pour le plan rédempteur de Dieu.
Attaché.